De cela venait-il ? Il leva la tête vers la fenêtre et tâcha de percer l'obscurité qui lui cachait toute la partie haute de la salle. Puis il regarda l'enveloppe sans oser y toucher encore, comme s'il eût redouté quelque embûche. Puis, soudain, après un coup d'œil du côté de la porte, il se baissa rapidement, saisit l'enveloppe et la décacheta.
« Il faut avoir toute confiance dans le porteur de ce mot. C'est lui qui, grâce à l'argent que nous lui avons remis, a su découvrir le secret du marquis et qui a conçu le plan de l'évasion. Tout est prêt pour la fuite. Euphrasie Rousselot. »
Il relut la lettre, répéta
« Euphrasie, Euphrasie »
et leva la tête de nouveau.
« Il me faut 2 ou 3 heures pour scier un des barreaux. Sébastiani et ses fils vont-ils revenir ?»«
Oui, oui, sans doute. Oui, je pense qu'ils me laisseront. »«
Mais ils couchent à côté. »«
Oui. »«
Ils n'entendront pas. »«
Non, la porte est trop massive. »«
Eh bien, en ce cas, ce ne sera pas long. J'ai une échelle de corde. Pourrez-vous monter seul, sans mon aide ?»«
Je crois, j'essaierai. » Ce sont mes poignets qu'ils ont brisés. Oh, les brutes, c'est à peine si je peux remuer les mains. Oh, j'ai bien peu de force, mais tout de même, j'essaierai, il faudra bien. »
Il s'interrompit, écouta, et posant un doigt sur sa bouche, murmura
« Chut !»
Lorsque Sébastiani et ses fils entrèrent, Daubrecq, qui avait dissimulé la lettre et se trouvait sur son lit, feignit de se réveiller en sursaut. Le garde apportait une bouteille de vin, un verre et quelques provisions.
« Ça va, monsieur le député. Dame, on a peut-être serré un peu fort. C'est si brutal, ce tourniquet de bois. Ça se faisait beaucoup du temps de la Grande Révolution et de Bonaparte, comme on dit. Du temps où il y avait des chauffeurs. Oh, une jolie invention. Et puis, propre. » « Pas de sang. Oh, ça n'a pas été long. Et au bout de 20 minutes, vous crachiez le mot de l'énigme. »« Oh, à propos, monsieur le député, toutes mes félicitations. Excellente la cachette. Et qui se douterait jamais? Voyez-vous, ce qui nous trompait, monsieur le marquis et moi, c'était ce nom de Marie que vous aviez d'abord lâché. Vous n'aviez pas menti. Seulement voilà. » Le mot est resté en route. Il fallait le finir. Oh. Non, mais tout de même, ce que c'est drôle. Ainsi, sur la table même de votre cabinet. En vrai, il y a de quoi rigoler.
Le garde s'était levé et arpentait la pièce en se frottant les mains.
Oh, monsieur le marquis est rudement content. Si content même. Qu'il reviendra demain soir en personne pour vous donner la clé des champs. Oui, il a réfléchi. Il y aura quelques formalités. Il vous faudra peut-être signer quelques chèques, rendre gorge, quoi, et rembourser monsieur le marquis de son argent et de ses peines. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Une misère pour vous. Sans compter qu'à partir de maintenant, plus de chaînes, plus de lanières de cuir autour des poignets, bref. Un traitement de roi. Et même, tenez, j'ai ordre de vous octroyer une bonne bouteille de vin vieux et un flacon de cognac. »
Sébastiani lança encore quelques plaisanteries. Puis il prit la lampe, fit une dernière inspection de la salle et dit à ses fils
« Laissons-le dormir. Vous aussi, reposez-vous tous les trois, mais ne dormez que d'un œil. On ne peut jamais savoir. »
Ils se retirèrent. Lupin impatienta et dit à voix basse
« Psst, je peux commencer ?»«
Oui, mais attention, il n'y aura rien d'impossible à ce qu'il fasse une ronde d'ici 1 heure ou 2. »
Lupin se mit à l'œuvre. Il avait une lime très puissante et le fer des barreaux, rouillé et rongé par le temps, était à certains endroits presque friable. À 2 reprises, Lupin s'arrêta, l'oreille aux aguets. Mais c'était le trottinement d'un rat dans les décombres de l'étage supérieur, ou le vol d'un oiseau nocturne. Et il continuait sa besogne, encouragé par Dobrek, qui écoutait près de la porte et qui l'eût prévenu à la moindre alerte. Oh, ah, c'est pas dommage. Car vrai, on est un peu à l'étroit dans ce maudit tunnel. Sans compter le froid. Il pesa de toutes ses forces sur le barreau qu'il avait scié par le bas et réussit à l'écarter suffisamment pour qu'un homme puisse glisser entre les deux barreaux qui restaient. Il dut ensuite reculer jusqu'à l'extrémité du couloir, dans la partie plus large où il avait laissé l'échelle de corde. L'ayant fixé au barreau, il appela « Psst, hé,
ça y est, vous êtes prêts ?»«
Oui, me voici, une seconde encore que j'écoute. » « Bien, ils dorment. Donnez-moi l'échelle. »
Lupin la déroula.
« Dois-je descendre ?»«
Non, je suis un peu faible, mais ça ira tout de même. »
En effet, il parvint assez vite à l'orifice du couloir et s'y engagea à la suite de son sauveur. Le grand air, cependant, parut l'étourdir. En outre, pour se donner des forces, il avait bu la moitié de la bouteille de vin. Et il eut une défaillance qui l'étendit sur la pierre du couloir durant une demi-heure. Lupin, perdant patience, l'attachait déjà à l'un des bouts du câble dont l'autre bout était noué autour des barreaux, et il se préparait à le faire glisser comme un colis, lorsque Dobrek se réveilla, plus dispo.
« Oh, c'est fini. Je me sens en bon état. Est-ce que ce sera long ?»«
Assez long. Nous sommes à 50 mètres de hauteur. »
Comment d'Albufex n'a-t-il pas prévu qu'une invasion était possible par là?
La falaise est à pic.
Et vous avez pu?
Dame, vos cousines ont insisté. Et puis, il faut vivre, n'est-ce pas? Et elles ont été généreuses.
Ah, les braves filles, où sont-elles?
En bas, dans une barque.
Il y a donc une rivière?
Oui, mais ne causons pas, voulez-vous, c'est dangereux.
Un mot encore. Il y avait longtemps que vous étiez là quand vous m'avez jeté la lettre.
Mais non, un quart d'heure au plus. Je vous expliquerai. Et maintenant, il s'agit de se hâter. Lupin passa le premier, en recommandant à Dobrek de bien s'accrocher à la corde et de descendre à reculons. Il le soutiendrait, d'ailleurs, aux endroits plus difficiles. Il leur fallut plus de 40 minutes pour arriver sur le terre-plein du ressaut que formait la falaise. Et plusieurs fois, Lupin dut aider son compagnon, dont les poignets, encore meurtris par la torture, avaient perdu toute énergie et toute souplesse. À plusieurs reprises, il gémit
« Oh, ah, les canailles, ils m'ont démoli. Les canailles. Moi, d'Albufex, tu me la paieras cher, celle-là.
Ah, silence.
Quoi?
Là-haut, du bruit. »
Immobiles sur le terre-plein, ils écoutèrent. Lupin pensa au sire de Tancarville et à la sentinelle qu'il avait tuée d'un coup d'arquebuse. Il frémit, subissant l'angoisse du silence et des ténèbres. Non, non, je me suis trompé. D'ailleurs, c'est idiot. On ne peut pas nous atteindre d'ici.
Qui nous atteindrait?
Rien, rien. Une idée stupide. À tâtons, il chercha et finit par trouver les montants de l'échelle. Et il reprit. « Tenez, voici l'échelle qui est dressée dans le lit de la rivière. Un de mes amis la garde, ainsi que vos cousines. »«
Me voici! Tenez bien l'échelle !»
Et il dit à Dobrek, « Je passe. »«
Il serait peut-être préférable que je passe avant vous. »«
Pourquoi ?»«
Je suis très las. Vous m'attacherez votre corde à la ceinture et vous me tiendrez. Sans quoi, je risquerai... »
Oui, vous avez raison. Approchez-vous. » Dobrek s'approcha et se mit à genoux sur le roc. Lupin l'attacha, puis, courbé en deux, saisit l'un des montants à pleine main pour que l'échelle n'oscillât pas.
« Allez-y !»
Au même moment, il sentit une violente douleur à l'épaule.
« Oh ! Créneau !»
Dobrek l'avait frappé d'un coup de couteau. Au-dessous de la nuque, un peu à droite.
Ah, Misérable, misérable !» Dans l'ombre, il devina Dobrek qui se débarrassait de sa corde, et il l'entendit murmurer.
« Aussi, tu es trop bête. Tu m'apportes une lettre de mes cousines Rousselot, où j'ai reconnu tout de suite l'écriture de l'aînée, Adélaïde. Mais que cette vieille rouée d'Adélaïde, par méfiance et pour me mettre au besoin sur mes gardes, a eu soin de signer du nom de sa cadette, Euphrasie Rousselot. Tu vois ça si j'ai tiqué. Alors, avec un peu de réflexion, tu es bien le sieur Arsène Lupin, n'est-ce pas? Le protecteur de Clarisse, le sauveur de Gilbert. Pauvre Lupin, je crois que ton affaire est mauvaise. Je ne frappe pas souvent, mais quand je frappe, ça y est. »
Il se pencha vers le blessé et fouilla ses poches.
« Donne-moi donc ton revolver. Tu comprends, tes amis vont presque aussitôt reconnaître que ce n'est pas leur patron et vont essayer de me retenir. Et comme je n'ai plus beaucoup de force, une balle ou deux. Adieu, Lupin. On se retrouvera dans l'autre monde, hein? Retiens-moi un appartement avec tout le confort moderne. Adieu, Lupin. Et tous mes remerciements. Ah, car vraiment, sans toi, je ne sais pas trop ce que je serais devenu. Fichtre, d'Albufex n'y allait pas de main morte. Oh, le bougre, ça m'amuse de le retrouver. »
Dobrek avait fini ses préparatifs. Il siffla de nouveau. On lui répondit de la barque.
« Me voici !»
En un effort suprême, Lupin tendit les bras pour l'arrêter. Mais il ne rencontra que le vide. Il voulut crier, avertir ses complices. Sa voix s'étrangla dans sa gorge. Il éprouvait un engourdissement affreux de tout son être. Ses tempes bourdonnaient. Soudain, des clameurs en bas, puis une détonation, puis une autre, que suivit un ricanement de triomphe, et des plaintes de femmes, des gémissements, et peu après, deux détonations encore. Lupin pensa à Clarisse, blessée, morte peut-être, à Dobrek qui s'enfuyait victorieux, à d'Albufex, au bouchon de cristal que l'un ou l'autre des deux adversaires allait reprendre sans que personne pût s'y opposer. Puis une vision brusque lui montra le sire de Tancarville tombant avec sa bien-aimée. Puis il murmura plusieurs fois « Clarisse ! Clarisse ! Gilbert !» Un grand silence se fit en lui. Une paix infinie le pénétra. Et sans aucune révolte, il avait l'impression que son corps épuisé, que rien ne retenait plus, roulait jusqu'au bord même du rocher, vers l'abîme.